Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de l'Expresso de la politique, votre rendez-vous sur Radio Campus Amiens pour décrypter l'actualité internationale, la géopolitique et ses répercussions sur la scène nationale. Début 2026 et le monde est déjà en pleine effervescence. La capture spectaculaire, scénarisée, du président vénézuélien Nicolas Maduro par les États-Unis de Donald Trump. Les enjeux stratégiques qui se dessinent autour du pétrole et le contrôle voulu du Groenland. Et un retour manifeste des logiques impériales qui avaient semblé s'effacer depuis la fin de la guerre froide. Pendant à peu près 10 minutes, nous allons essayer d'explorer ces événements, d'expliquer leurs causes, d'analyser leurs implications pour le droit international et la géopolitique mondiale. Et essayer de comprendre surtout comment ces crises illustrent le retour d'un monde où les ressources et la puissance dictent parfois la loi plus que les règles et où la loi du plus fort semble dominer largement. Avant de parler de l'intervention américaine, il est essentiel de comprendre qui est Nicolas Maduro. Héritier politique de Hugo Chavez, il est passé de chauffeur de bus à président. Mais pour beaucoup, le dirigeant d'un pays exsangue et répressif. Sous sa présidence, le Venezuela a plongé dans une crise profonde. Hyperinflation, pénurie alimentaire et sanitaire, effondrement des services publics et fuite de près de 7,98 millions de citoyens. Sur le plan politique, Maduro est accusé de répression de l'opposition, arrestation arbitraire et affaiblissement des institutions démocratiques. Des leaders de l'opposition sont exilés ou emprisonnés. Sa capture par les États-Unis dans la nuit du 2 au 3 janvier 2026 marque la fin d'un cycle politique et place sa figure au centre d'un débat mondial sur la souveraineté des États, la légalité des interventions et la place que joue encore à l'heure actuelle le droit international. Pour essayer un petit peu de mieux comprendre, d'essayer de décrypter l'intervention américaine, il est selon moi indispensable de parler de cette fameuse doctrine Monroe qui revient beaucoup sur le devant de la scène actuellement, et essayer de mieux cerner les enjeux qui en découlent. Elle a été formulée en 1823 par le cinquième président américain James Monroe. À l'époque, elle stipulait que l'Amérique était sous la protection des États-Unis et que toute intervention européenne dans l'hémisphère occidental serait considérée comme une menace pour la sécurité américaine. Mais au fil du temps, la doctrine Monroe a été instrumentalisée par les États-Unis pour justifier leur potentiel et leur possible influence sur leurs voisins. Elle a servi de justification à de nombreuses interventions au XXe siècle. On a pris, normalement, si je me souviens bien, de 24 interventions qui ont eu lieu entre 1945 et actuellement. Qu'il s'agisse de protéger des intérêts économiques, soutenir certains régimes ou contrer l'influence communiste pendant la période de la guerre froide. Aujourd'hui, le Venezuela peut être considéré comme un terrain moderne de la doctrine Monroe. Les États-Unis justifient leur action par la défense de leurs intérêts stratégiques et la lutte contre un gouvernement perçu comme foncièrement hostile, et on place et on met en évidence la prétendue lutte contre la gangrène du narcotrafic. La doctrine Monroe, elle explique que la capture de Maduro n'est pas un événement isolé, mais le prolongement d'une logique historique d'influence américaine dans la région. Alors, on peut très justement se demander pourquoi maintenant au Venezuela ? Alors, pourquoi cette intervention en ce début d'année 2026 ? Plusieurs facteurs se conjuguent et se recoupent. Tout d'abord, affirmer la puissance américaine après une période de retrait diplomatique, sécuriser surtout les ressources stratégiques, notamment concernant le pétrole vénézuélien et les revenus qui en dépendent et qui en découlent. Envoyer un signal, surtout aux autres puissances. Selon moi, on peut prendre en considération le fait que la Chine ou la Russie, et c'est pour ça qu'on se retrouve vraiment dans une sphère d'influence avec le retour des empires, que le droit international peut être contourné si les intérêts le permettent et l'exigent. Qu'est-ce qui pourrait empêcher la Chine de s'en prendre à Taïwan ? Qu'est-ce qui pourrait empêcher la Russie d'aller plus loin et de considérer sa guerre d'agression contre le territoire ukrainien comme une violation du droit international en observant cette situation. Cette opération est donc autant géopolitique qu'économique. Elle illustre cette volonté des États-Unis de maintenir leur influence dans l'hémisphère occidental et de sécuriser des ressources stratégiques en s'appuyant sur un héritage historique de la doctrine Monroe qui a été revisité pour être rebaptisée la doctrine Donroe. Sur le rôle de la drogue, parce qu'il est important de souligner véritablement les enjeux, il est important de nuancer. Les États-Unis accusent Maduro de narcoterrorisme, d'être à la tête d'un système de production et d'exportation de drogue. Mais comme le souligne Roberto Saviano, le Venezuela n'est pas un état de la drogue et il est faux de considérer que le Venezuela se fondrait et se reposerait essentiellement sur la drogue, au sens strict du terme. La drogue, elle est utilisée, selon lui, comme un instrument politique et économique. Financer des réseaux de loyauté, maintenir le contrôle pour être véritablement dans un régime de pratique, on pourrait dire, clientéliste, d'avoir cette possibilité de garder la main. La crise vénézuélienne est avant tout politique et sociale, et le narcotrafic n'est qu'un outil du pouvoir, pas une finalité. Mais revenons-en au droit international et à cette prétendue légalité de l'opération, puisqu'on a pu montrer cela comme un retour de la démocratie au Venezuela, alors que l'on voit justement avec la nouvelle présidente par intérim, Rodriguez, que nous gardons la même structure du chavisme de l'époque du Hugo Chavez. Donc l'intervention américaine, elle pose une question fondamentale. Quelle limite au pouvoir des États dans un monde sans règles ? L'opération viole la souveraineté vénézuélienne et aucun mandat de l'ONU n'a été demandé. Capturer un chef d'État en exercice peut être considéré comme un acte d'agression selon le droit international. Selon le dernier éditorial du journal Le Monde, cette intervention est une négation d'un ordre international déjà largement fragilisé et moribond. Elle montre que la force, elle peut largement primer sur le droit, renforçant l'idée selon laquelle les grandes puissances peuvent agir sans aucune contrainte juridique. C'est un précédent dangereux qui pourrait inspirer, on l'a dit, d'autres États à agir unilatéralement et fragiliser encore davantage le système multilatéral. Le pétrole vénézuélien se présente donc comme un enjeu stratégique majeur. Le Venezuela détient les plus grandes réserves pétrolières mondiales, plus de 300 milliards de barils. Pourtant, la production reste largement sous-exploitée à cause de sanctions, de la mauvaise gestion et des infrastructures vieillissantes qui n'ont pas été renouvelées. Cela s'est largement dégradé sous la période de Nicolas Maduro. On avait pu voir une amélioration avec un populisme que l'on peut qualifier de participatif d'une politique dite sociale mise en avant par Hugo Chavez à son époque, qui est arrivé en 1998 et qui est décédé en 2013 et qui avait enjoint ses soutiens voilà, de voter et d'élire Nicolas Maduro. Et donc, on peut voir que le pétrole, c'est vraiment l'enjeu stratégique majeur. Les États-Unis s'intéressent à ces réserves pour plusieurs raisons. Relever la production, influencer les prix mondiaux, reprendre un rôle historique dans le pays où leur compagnie exploitait déjà le pétrole. Sécuriser un levier géopolitique stratégique, notamment face à la Chine et la Russie, c'est justement l'argument qui est mis en évidence par rapport aux velléités qui sont répétées par rapport au Groenland actuellement. Où transformer ce potentiel en réalité exigera des années d'investissement, de modernisation et de stabilité politique. Et c'est réellement le retour des empires, de l'impérialisme des ressources. Cette intervention illustre un phénomène plus global, le retour des empires et de l'impérialisme des ressources. L'accès aux matières stratégiques devient un instrument de puissance, un moyen de pression directe. Ce n'est pas seulement une question économique, mais géopolitique, profondément géopolitique. Un signal aux autres puissances mondiales. Contrôler les ressources, c'est pouvoir contrôler la politique et avoir une certaine influence sur celle-ci. Dans ce contexte, le droit international devient alors une option. Et les puissances testent toujours plus ses limites. On peut le voir actuellement avec le Groenland. On vient de le dire de manière assez brève. On voit que ce sont des enjeux stratégiques et géopolitiques en changeant de région. Cette île Arctique, elle est riche en minerais et terres rares, essentielles pour la défense de la technologie. La fonte des glaces ouvre de nouvelles routes maritimes, auparavant impraticables. C'est pour ça que Donald Trump utilise cet argument en disant que la Chine et la Russie pourraient essayer de s'emparer et d'avoir un rôle important dans les années à venir au Groenland et que c'est de l'ordre de la sécurité nationale des États-Unis de s'en emparer. Les États-Unis et d'autres puissances, voilà un terrain, on peut le dire, stratégique crucial pour sécuriser les ressources et asseoir leur influence. Comme pour le Venezuela, le Groenland devient cet enjeu de compétition mondiale, illustrant que le retour des empires ne se limite pas à l'Amérique latine. Les conséquences géopolitiques. Que retenir de ce panorama mondial alors que nous venons à peine de commencer l'année 2026 ? Le droit international est mis à l'épreuve, la souveraineté et les normes peuvent donc être contournées. La stabilité régionale est donc menacée. Le Venezuela et l'Arctique sont au cœur de conflits stratégiques. Les alliances et les équilibres mondiaux doivent être repensés car la force prime donc sur le droit. Début 2026, entre la capture de Maduro, la volonté de contrôle des ressources en passant du Venezuela au Groenland et ce retour des logiques impériales, le monde s'inscrit dans une dynamique où la puissance prime sur les règles, où les ressources sont des instruments de domination et où chaque puissance teste ses propres limites et ses influences. Et comprendre ces événements, leurs causes et leurs implications est plus que jamais essentiel pour analyser l'avenir de notre planète et, on pourrait le dire aussi, l'avenir de l'ordre mondial, parce que c'est absolument fondamental. On se retrouve au cœur de bouleversements sans précédent et il est important de prendre ce temps pour prendre du recul et essayer de comprendre les enjeux fondamentaux qui s'y trouvent. La scène internationale, elle est complexe et surtout, elle est interdépendante. Parce que quand on voit ça, on voit que la capture de Nicolas Maduro par les États-Unis, elle illustre non seulement cette fragilité du droit international, mais surtout, et c'est ça qu'il faut retenir, la persistance des logiques impériales, historiques et contemporaines. Le Venezuela, c'est le symbole même d'un pays où cette crise politique, économique et sociale se mêle à des enjeux géostratégiques et où la souveraineté nationale peut être remise en cause par des grandes puissances qui s'arrogent un pouvoir. Le Groenland, de son côté, rappelle que l'accès aux ressources naturelles devient un levier stratégique pour les États puissants. Même dans les régions les plus reculées, on pourrait le penser, de la planète. La fonte des glaces, on l'a dit, la mise en exploitation de minerais et de terres rares démontrent que la géopolitique et l'économie se rejoignent, là où le droit international peine à s'imposer. Si l'on combine ces deux exemples, à la fois, on l'a dit, le Venezuela et le Groenland, on voit se dessiner cette tendance claire, le retour des empires. Qu'il s'agisse des États-Unis, de la Chine, de la Russie, les grandes puissances cherchent à sécuriser le plus possible leurs ressources, à étendre leur influence et parfois à contourner, en dépit de tout, au mépris de tout, les règles internationales pour le faire. Pour les citoyens, pour les institutions et pour les futures générations, la question centrale est comment maintenir un équilibre entre puissance, souveraineté et droit international dans un monde où la force et les intérêts stratégiques dictent les règles. Comprendre ces enjeux, les analyser, les débattre est nécessaire dans nos démocraties. Et c'est cela qui a été fait justement après la réaction qui était très minime, très timide de notre président de la République, Emmanuel Macron, en félicitant justement Donald Trump et cette intervention américaine de la capture de Nicolas Maduro. Certes, on le sait, c'est un régime autoritaire qui a mené des répressions particulièrement violentes et qui a réprimé sa population Pour autant, il est nécessaire, je pense, de trouver un juste milieu et de dire à quel point cela ne veut pas nécessairement dire que nous allons ramener la démocratie en enlevant et en capturant un dirigeant. Certes, son élection a été, on le sait, contestée. Elle a été largement contestée à plusieurs reprises. Pour autant, il est nécessaire de rappeler l'importance du droit international. Sinon, si on fait fi de ça, on fait fi du droit international, on ne pourra plus rien dire. Par rapport à la Chine, par rapport à ses velléités, par rapport à la Russie ou par rapport à d'autres États qui souhaitent s'étendre ou avoir la possibilité de mener des actions de même envergure. Nous n'aurions alors plus la possibilité de dire quoi que ce soit. Et c'est pour ça qu'il est nécessaire de rappeler l'importance cruciale du droit international et de la nécessité fondamentale de devoir le respecter et de continuer à le respecter. Car c'est seulement en mettant en lumière les causes et les conséquences que nous pourrons espérer construire des réponses qui limitent les conflits et préservent la paix. Sur tout ce qu'on a pu se dire, j'espère que cela pourra contribuer à un débat un peu plus éclairé, essayer de mieux comprendre les enjeux, parce que ça soulève de nombreuses interrogations et de nombreuses questions, et c'est vrai qu'il est nécessaire de prendre un peu de recul sur la situation qui est très complexe. J'espère que cet épisode de l'Expresso de la politique, pour ce début 2026 qui est particulièrement chargé en actualité, vous aura intéressé et vous aura donné envie d'en savoir un peu plus, et on continuera de décortiquer ces enjeux dans un prochain épisode de l'Expresso de la politique. À très vite.